La Chartreuse de Parme, livre 1, chapitre 7. C'est de petits détails de cour aussi insignifiants que celui que nous venons de raconter qu'il faudrait remplir l'histoire des 4 années qui suivirent. Chaque printemps, la marquise venait avec ses filles passer 2 mois au palais San Severina ou à la terre de Sacca, au bord du Pô. Il y avait des moments bien doux et l'on parlait de Fabrice. Mais le comte ne voulut jamais lui permettre une seule visite à Parme. La duchesse et le ministre eurent bien à réparer quelques étourderies. Mais en général, Fabrice suivait assez sagement la ligne de conduite qu'on lui avait indiquée. Un grand seigneur, qui étudie la théologie et qui ne compte point absolument sur sa vertu pour faire son avancement. À Naples, il s'était pris d'un goût très vif pour l'étude de l'Antiquité. Il faisait des fouilles. Cette passion avait presque remplacé celle des chevaux. Il avait vendu ses chevaux anglais pour continuer des fouilles à Misène, où il avait trouvé un buste de Tibère, jeune encore, qui avait pris rang parmi les plus beaux restes de l'Antiquité. La découverte de ce buste fut presque le plaisir le plus vif qu'il eût rencontré à Naples. Il avait l'âme trop haute pour chercher à imiter les autres jeunes gens. Et, par exemple, pour vouloir jouer avec un certain sérieux le rôle d'amoureux. Sans doute, il ne manquait point de maîtresse, mais elle n'était pour lui d'aucune conséquence. Et, malgré son âge, on pouvait dire de lui qu'il ne connaissait point l'amour. Il n'en était que plus aimé. Rien ne l'empêchait d'agir avec le plus beau sang-froid. Car pour lui, une femme jeune et jolie était toujours l'égale d'une autre femme jeune et jolie. Seulement la dernière connue lui semblait la plus piquante. Une des dames les plus admirées à Naples avait fait des folies en son honneur pendant la dernière année de son séjour, ce qui d'abord l'avait amusé et avait fini par l'excéder d'ennui, tellement qu'un des bonheurs de son départ fut d'être délivré des attentions de la charmante duchesse d'A. Ce fut en 1821 qu'ayant subi passablement tous ses examens, son directeur d'études ou gouverneur eut une croix et un cadeau, et lui partit pour voir enfin cette ville de Parme à laquelle il songeait souvent. Il était Monsignore, et il avait 4 chevaux à sa voiture. À la poste avant Parme, il n'en prit que 2, et dans la ville fit arrêter devant l'église de Saint-Jean. Là se trouvait le riche tombeau de l'archevêque Ascagne del Dongo, son arrière-grand-oncle, l'auteur de la généalogie latine. Il pria auprès du tombeau, puis arriva à pied au palais de la duchesse, qui ne l'attendait que quelques jours plus tard. Elle avait grand monde dans son salon. Bientôt on la laissa seule. « Eh bien, es-tu contente de moi ?» lui dit-il en se jetant dans ses bras. « Grâce à toi, j'ai passé 4 années assez heureuses à Naples, au lieu de m'ennuyer à Novare avec ma maîtresse autorisée par la police. » La duchesse ne revenait pas de son étonnement. Elle ne l'eût pas reconnu à le voir passer dans la rue. Elle le trouvait, ce qu'il était en effet, l'un des plus jolis hommes de l'Italie. Il avait surtout une physionomie charmante. Elle l'avait envoyé à Naples avec la tournure d'un hardi casse-cou. La cravache qu'il portait toujours alors semblait faire partie inhérente de son être. Maintenant, il avait l'air le plus noble et le plus mesuré devant les étrangers. Et dans le particulier, elle lui trouvait tout le feu de sa première jeunesse. C'était un diamant qui n'avait rien perdu à être poli. Il n'y avait pas 1 heure que Fabrice était arrivé lorsque le comte Mosca survint. Il arriva un peu trop tôt. Le jeune homme lui parla en si bons termes de la croix de Parme accordée à son gouverneur, et il exprima sa vive reconnaissance pour d'autres bienfaits, dont il n'osait parler d'une façon aussi claire, avec une mesure si parfaite que du premier coup d'œil, le ministre le jugea favorablement. « Ce neveu, dit-il tout bas à la duchesse, et fait pour orner toutes les dignités auxquelles vous voudrez l'élever par la suite. Tout allait à merveille jusque-là. Mais quand le ministre, fort content de Fabrice, et jusque-là attentif uniquement à ses faits et gestes, regarda la duchesse, il lui trouva des yeux singuliers. « Ce jeune homme fait ici une étrange impression, » se dit-il. Cette réflexion fut amère. Le comte avait atteint la cinquantaine. C'est un mot bien cruel, et dont peut-être un homme éperdument amoureux peut seul sentir tout le retentissement. Il était fort bon, fort digne d'être aimé, à ses sévérités près comme ministre. Mais, à ses yeux, ce mot cruel, la cinquantaine, jetait du noir sur toute sa vie, et eût été capable de le faire cruel pour son propre compte. Depuis 5 années qu'il avait décidé la duchesse à venir à Parme, elle avait souvent excité sa jalousie, surtout dans les premiers temps. Mais jamais elle ne lui avait donné de sujet de plainte réel. Il croyait même, et il avait raison, que c'était dans le dessein de mieux s'assurer de son cœur que la duchesse avait eu recours à ses apparences de distinction en faveur de quelques jeunes beaux de la cour. Il était sûr, par exemple, qu'elle avait refusé les hommages du prince, qui même, à cette occasion, avait dit un mot instructif. « Mais si j'acceptais les hommages de votre Altesse, » lui disait la duchesse en riant, « de quel front oser reparaître devant le comte ?» Je serais presque aussi décontenancé que vous, le cher comte, mon ami. Mais c'est un embarras bien facile à tourner et auquel j'ai songé. Le comte serait mis à la citadelle pour le reste de ses jours. » Au moment de l'arrivée de Fabrice, la duchesse fut tellement transportée de bonheur qu'elle ne songea pas du tout aux idées que ses yeux pourraient donner au comte. L'effet fut profond et les soupçons sans remède. Fabrice fut reçu par le prince 2 heures après son arrivée. La duchesse, prévoyant le bon effet que cette audience impromptue devait produire dans le public, la sollicitait depuis 2 mois. Cette faveur mettait Fabrice hors de pair dès le premier instant. Le prétexte avait été qu'il ne faisait que passer à Parme pour aller voir sa mère en Piémont. Au moment où un petit billet charmant de la duchesse vint dire au prince que Fabrice attendait ses ordres, son Altesse s'ennuyait. « Je vais voir, se dit-elle, un petit sein bien niais, une mine plate ou sournoise. » Le commandant de la place avait déjà rendu compte de la première visite au tombeau de l'oncle archevêque. Le prince vit entrer un grand jeune homme que, sans ses bas violets, il eût pris pour quelque jeune officier. Cette petite surprise chassa l'ennui. « Voilà un gaillard, se dit-il, pour lequel on va me demander, Dieu sait quelle faveur, toutes celles dont je puis disposer. » Il arrive, il doit être ému. Je m'en vais faire de la politique jacobine. Nous verrons un peu comment il répondra. Après les premiers mots gracieux de la part du prince, « Eh bien, Monsignore, » dit-il à Fabrice, « les peuples de Naples sont-ils heureux? Le roi est-il aimé ?»« Altesse sérénissime, » répondit Fabrice sans hésiter un instant. « J'admirais, en passant dans la rue, l'excellente tenue des soldats des divers régiments de Sa Majesté le roi. La bonne compagnie est respectueuse envers ses maîtres comme elle doit l'être. Mais j'avouerai que de la vie, je n'ai souffert que les gens des basses classes me parlassent d'autre chose que du travail pour lequel je les paie. » « Peste ! » dit le prince. « Quel sacré ! Voici un oiseau bien stylé. C'est l'esprit de la Sanseverina. » Piqué au jeu, le prince employa beaucoup d'adresse à faire parler Fabrice sur ce sujet si scabreux. Le jeune homme, animé par le danger, eut le bonheur de trouver des réponses admirables. « C'est presque de l'insolence que d'afficher de l'amour pour son roi, » disait-il. « C'est de l'obéissance aveugle qu'on lui doit. » À la vue de tant de prudence, le prince eut presque de l'humeur. « Il paraît que voici un homme d'esprit qui nous arrive de Naples, et je n'aime pas cette engeance. un homme d'esprit a beau marcher dans les meilleurs principes et même de bonne foi, toujours par quelque côté, il est cousin germain de Voltaire et de Rousseau. Le prince se trouvait comme bravé par les manières si convenables et les réponses tellement inattaquables du jeune échappé de collège. Ce qu'il avait prévu n'arrivait point. En un clin d'œil, il prit le ton de la bonhomie et, remontant en quelques mots jusqu'aux grands principes des sociétés et du gouvernement, il débita, en les adaptant à la circonstance, quelques phrases de Fénelon qu'on lui avait fait apprendre par cœur dès l'enfance pour les audiences publiques. « Ces principes vous étonnent, jeune homme, » dit-il à Fabrice. Il l'avait appelé « Monsignore » au commencement de l'audience, et il comptait lui donner du « Monsignore » en le congédiant, mais dans le courant de la conversation, il trouvait plus adroit, plus favorable aux tournures pathétiques, de l'interpeller par un petit nom d'amitié. Ces principes vous étonnent, jeune homme. J'avoue qu'ils ne ressemblent guère aux tartines d'absolutisme, ce fut le mot, que l'on peut lire tous les jours dans mon journal officiel. Mais, grand Dieu, qu'est-ce que je vais vous citer là? Ces écrivains du journal sont pour vous bien inconnus. Je demande pardon à votre Altesse Sérénissime. Non seulement je lis le journal de Parme, qui me semble assez bien écrit, mais encore je tiens, avec lui, que tout ce qui a été fait depuis la mort de Louis XIV, en 1715, est à la fois un crime et une sottise. Le plus grand intérêt de l'homme, c'est son salut. Il ne peut pas y avoir deux façons de voir à ce sujet. Et ce bonheur-là doit durer une éternité. Les mots « liberté »,« justice »,« bonheur du plus grand nombre » sont infâmes et criminels. Ils donnent aux esprits l'habitude de la discussion et de la méfiance. Une chambre des députés se défie de ce que ces gens-là appellent le ministère. Cette fatale habitude de la méfiance, une fois contractée, la faiblesse humaine l'applique à tout. L'homme arrive à se méfier de la Bible, des ordres de l'Église, de la tradition, etc., etc. Dès lors, il est perdu. Quand bien même, ce qui est horriblement faux et criminel à dire, cette méfiance envers l'autorité des princes établis de Dieu donnerait le bonheur pendant les 20 ou 30 années de vie que chacun de nous peut prétendre, qu'est-ce qu'un demi-siècle ou un siècle tout entier comparé à une éternité de supplice, etc. On voyait, à l'air dont Fabrice parlait, qu'il cherchait à arranger ses idées de façon à les faire saisir le plus facilement possible par son auditeur. Il était clair qu'il ne récitait pas une leçon. Bientôt, le prince ne se soucia plus de lutter avec ce jeune homme, dont les manières simples et graves le gênaient. « Adieu, Monsignore, » lui dit-il brusquement. « Je vois qu'on donne une excellente éducation dans l'Académie ecclésiastique de Naples, et il est tout simple que, quand ces bons préceptes tombent sur un esprit aussi distingué, on obtienne des résultats brillants. Adieu. » Et il lui tourna le dos. Je n'ai point plus à cet animal-là, se dit Fabrice. Maintenant, il nous reste à voir, dit le prince dès qu'il fut seul, si ce beau jeune homme est susceptible de passion pour quelque chose. En ce cas, il serait complet. Peut-on répéter avec plus d'esprit les leçons de l'attente? Il me semblait l'entendre parler. S'il y avait une révolution chez moi, ce serait elle qui rédigerait le Moniteur. Comme jadis, la San Felice à Naples. Mais la San Felice, malgré ses 25 ans et sa beauté, fut un peu pendue. Avis aux femmes de trop d'esprit. En croyant Fabrice, l'élève de sa tante, le prince se trompait. Les gens d'esprit qui naissent sur le trône ou à côté perdent bientôt toute finesse de tact. Ils proscrivent autour d'eux la liberté de conversation qui leur paraît grossièreté. Ils ne veulent voir que des masques et prétendent juger de la beauté du teint. Le plaisant, c'est qu'ils se croient beaucoup de tact. Dans ce cas-ci, par exemple, Fabrice croyait à peu près tout ce que nous lui avons entendu dire. Il est vrai qu'il ne songeait pas deux fois par mois à tous ces grands principes. Il avait des goûts vifs, il avait de l'esprit, mais il avait la foi. Le goût de la liberté, La mode et le culte du bonheur du plus grand nombre, dont le XIXe siècle s'est entiché, n'était à ses yeux qu'une hérésie qui passera comme les autres. Mais après avoir tué beaucoup d'âmes, comme la peste, tandis qu'elle règne dans une contrée, tue beaucoup de corps. Et malgré tout cela, Fabrice lisait avec délice les journaux français et faisait même des imprudences pour s'en procurer. Comme Fabrice revenait tout ébouriffé de son audience au palais et racontait à sa tante les diverses attaques du prince, « Il faut, lui dit-elle, que tu ailles tout présentement chez le père Landriani, notre excellent archevêque. Vas-y à pied, monte doucement l'escalier, fais peu de bruit dans les antichambres. Si l'on te fait attendre, tant mieux, mille fois tant mieux. En un mot, sois apostolique. » « J'entends, dit Fabrice, notre homme est un tartuffe. » « Pas le moins du monde, c'est la vertu même. » « Même après ce qu'il a fait, reprit Fabrice étonné, lors du supplice du comte Palanza ?»« Oui, mon ami, après ce qu'il a fait. » Le père de notre archevêque était un commis au ministère des Finances, un petit bourgeois, voilà qui explique tout. Monseigneur Landriani est un homme d'un esprit vif, étendu, profond. Il est sincère, il aime la vertu. Je suis convaincu que si un empereur Décius revenait au monde, il subirait le martyre comme le polyeute de l'opéra qu'on nous donnait la semaine passée. Voilà le beau côté de la médaille. Voici le revers. Dès qu'il est en présence du souverain, ou seulement du premier ministre, il est ébloui de tant de grandeur. Il se trouble, il rougit. Il lui est matériellement impossible de dire non. De là les choses qu'il a faites et qui lui ont valu cette cruelle réputation dans toute l'Italie. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que lorsque l'opinion publique vint l'éclairer sur le procès du comte Palanza, il s'imposa pour pénitence de vivre au pain et à l'eau pendant 13 semaines, autant de semaines qu'il y a de lettres dans les noms David et Palanza. Nous avons à cette cour un coquin d'infiniment d'esprit nommé Rassi, grand juge ou fiscal général, qui, lors de la mort du comte Palanza, ensorcela le père Landriani. À l'époque de la pénitence des 13 semaines, le comte Mosca, par pitié et un peu par malice, l'invitait à dîner une et même deux fois par semaine. Le bon archevêque, pour faire sa cour, dînait comme tout le monde. Il eût cru qu'il y avait rébellion et jacobinisme à afficher une pénitence pour une action approuvée du souverain. Mais l'on savait que pour chaque dîner où son devoir de fidèle sujet l'avait obligé à manger comme tout le monde, il s'imposait une pénitence de 2 journées de nourriture au pain et à l'eau. Monseigneur Landriani, esprit supérieur, savant du premier ordre, n'a qu'un faible. Il veut être aimé. Ainsi, attendris-toi en le regardant, et à la 3e visite, aime-le tout à fait. Cela, joint à ta naissance, te fera adorer tout de suite. Ne marque pas de surprise s'il te reconduit jusque sur l'escalier. Aie l'air d'être accoutumé à ses façons. C'est un homme né à genoux devant la noblesse. Du reste, sois simple, apostolique, pas d'esprit, pas de brillant, pas de répartie prompte. Si tu ne l'effarouches point, il se plaira avec toi. Songe qu'il faut que de son propre mouvement, il te fasse son grand vicaire. Le comte et moi nous serons surpris et même fâchés de ce trop rapide avancement. Cela est essentiel vis-à-vis du souverain. Fabrice courut à l'archevêché. Par un bonheur singulier, le valet de chambre du bon prélat, un peu sourd, n'entendit pas le nom d'El Dongo. Il annonça un jeune prêtre nommé Fabrice. L'archevêque se trouvait avec un curé de mœurs peu exemplaires et qu'il avait fait venir pour le gronder. Il était en train de faire une réprimande, chose très pénible pour lui, et ne voulait pas avoir ce chagrin sur le cœur plus longtemps. Il fit donc attendre 3 quarts d'heure le petit-neveu du grand archevêque Ascanio del Dongo. Comment peindre ses excuses et son désespoir quand, après avoir reconduit le curé jusqu'à la seconde antichambre, et lorsqu'il demandait en repassant à cet homme qui attendait en quoi il pouvait le servir, il aperçut les bas violets et entendit le nom Fabrice del Dongo. La chose parut si plaisante à notre héros que dès cette première visite, il hasarda de baiser la main du saint prélat, dans un transport de tendresse. Il fallait entendre l'archevêque répéter avec désespoir « Un del Dongo à tendre dans mon antichambre !» Il se crut obligé, en forme d'excuse, de lui raconter toute l'anecdote du curé, ses torts, ses réponses, etc. « Est-il bien possible, se disait Fabrice en revenant au palais San Severina, que ce soit là l'homme qui a fait hâter le supplice de ce pauvre comte Palanza ?»« Que pense votre excellence ?» lui dit en riant le comte Mosca, en le voyant rentrer chez la duchesse. Le comte ne voulait pas que Fabrice l'appelât excellence. « Je tombe des nues. Je ne connais rien au caractère des hommes. J'aurais parié, si je n'avais pas su son nom, que celui-ci ne peut voir saigner un poulet. » « Eh, vous auriez gagné, reprit le comte. Mais quand il est devant le prince, ou seulement devant moi, il ne peut dire non. À la vérité, pour que je produise tout mon effet, il faut que j'aie le grand cordon jaune passé par-dessus l'habit. En frac, il me contredirait. Aussi, je prends toujours un uniforme pour le recevoir. Ce n'est pas à nous à détruire le prestige du pouvoir. Les journaux français le démolissent bien assez vite. » À peine si la manie respectante vivra autant que nous, et vous, mon neveu, vous survivrez au respect. Vous, vous serez bon homme. » Fabrice se plaisait fort dans la société du comte. C'était le premier homme supérieur qui eût daigné lui parler sans comédie. D'ailleurs, ils avaient un goût commun, celui des antiquités et des fouilles. Le comte, de son côté, était flatté de l'extrême attention avec laquelle le jeune homme l'écoutait. Mais il y avait une objection capitale. Fabrice occupait un appartement dans le palais San Severina, passait sa vie avec la duchesse, laissait voir en toute innocence que cette intimité faisait son bonheur, et Fabrice avait des yeux, un teint d'une fraîcheur désespérante. De longues mains, Ranucci et Ernest IV, qui trouvait rarement de cruel, était piqué de ce que la vertu de la duchesse, bien connue à la cour, n'avait pas fait une exception à sa faveur. Nous l'avons vu, l'esprit et la présence d'esprit de Fabrice l'avaient choqué dès le premier jour. Il prit mal l'extrême amitié que sa tante et lui se montraient à l'étourdi. Il prêta l'oreille avec une extrême attention aux propos de ses courtisans, qui furent infinis. L'arrivée de ce jeune homme et l'audience si extraordinaire qu'il avait obtenue firent pendant un mois la nouvelle et l'étonnement de la cour. Sur quoi le prince eut une idée. Il avait dans sa garde un simple soldat qui supportait le vin d'une admirable façon. Cet homme passait sa vie au cabaret et rendait compte de l'esprit du militaire directement au souverain. Carlone ne savait pas écrire, sans quoi depuis longtemps il eût obtenu de l'avancement. Or, sa consigne était de se trouver devant le palais tous les jours quand midi sonnait à la grande horloge. Le prince alla lui-même un peu avant midi disposer d'une certaine façon la persienne d'un entresol tenant à la pièce où son Altesse s'habillait. Il retourna dans cet entresol un peu après que midi eut sonné. Il y trouva le soldat. Le prince avait dans sa poche une feuille de papier et une écritoire. Il dicta au soldat le billet que voici. « Votre Excellence a beaucoup d'esprit, sans doute, et c'est grâce à sa profonde sagacité que nous voyons cet État si bien gouverné. Mais, mon cher comte, de si grands succès ne marchent point sans un peu d'envie, et je crains fort qu'on ne rie un peu à vos dépens si votre sagacité ne devine pas qu'un certain beau jeune homme a eu le bonheur d'inspirer, malgré lui peut-être, un amour des plus singuliers. Cet heureux mortel n'a, dit-on, que 23 ans. Et, cher comte, ce qui complique la question, c'est que vous et moi, nous avons beaucoup plus que le double de cet âge. Le soir, à une certaine distance, le comte est charmant, sémillant, homme d'esprit, aimable au possible. Mais le matin, dans l'intimité, à bien prendre les choses, le nouveau venu a peut-être plus d'agrément. Or, nous autres femmes, nous faisons grand cas de cette fraîcheur de la jeunesse, surtout quand nous avons passé la trentaine. Ne parle-t-on pas déjà de fixer cet aimable adolescent à notre cour par quelque belle place? Et quelle est donc la personne qui en parle le plus souvent à votre excellence? Le prince prit la lettre et donna 2 écus au soldat. Ceci, outre vos appointements, lui dit-il d'un air morne, le silence absolu envers tout le monde, ou bien la plus humide des basses fosses à la citadelle. Le prince avait dans son bureau une collection d'enveloppes avec les adresses de la plupart des gens de sa cour, de la main de ce même soldat qui passait pour ne savoir écrire et n'écrivait jamais, même ses rapports de police. Le prince choisit celle qu'il fallait. Quelques heures plus tard, le comte Mosca reçut une lettre par la poste. On avait calculé l'heure où elle pourrait arriver, et au moment où le facteur, qu'on avait vu entrer tenant une petite lettre à la main, sortit du palais du ministère, Mosca fut appelé chez son Altesse. Jamais le favori n'avait paru dominé par une plus noire tristesse. Pour en jouir plus à l'aise, le prince lui cria en le voyant. « J'ai besoin de me délasser en jasant au hasard avec l'ami, et non pas de travailler avec le ministre. Je jouis ce soir d'un mal à la tête fou, et de plus il me vient des idées noires. » Faut-il parler de l'humeur abominable qui agitait le premier ministre, comte Mosca de la Rovère, à l'instant où il lui fut permis de quitter son auguste maître? Ranucci et Ernest IV étaient parfaitement habiles dans l'art de torturer un cœur. Et je pourrais faire ici, sans trop d'injustice, la comparaison du tigre qui aime à jouer avec sa proie. Le comte se fit reconduire chez lui au galop. Il cria en passant qu'on ne laissait monter âme qui vive, fit dire à l'auditeur de service qu'il lui rendait la liberté. Savoir un être humain à portée de sa voix lui était odieux. Et courut s'enfermer dans la grande galerie de tableaux. Là, enfin, il put se livrer à toute sa fureur. Là, il passa la soirée sans lumière, à se promener au hasard, comme un homme hors de lui. Il cherchait à imposer silence à son cœur, pour concentrer toute la force de son attention dans la discussion du parti à prendre. Plongé dans des angoisses qui eussent fait pitié à son plus cruel ennemi, il se disait « L'homme que j'aborde loge chez la duchesse, passe tous ses moments avec elle. Dois-je tenter de faire parler une de ses femmes? Rien de plus dangereux. Elle est si bonne, elle les paie bien, elle est adorée. Et de qui, grand Dieu, n'est-elle pas adorée? Voici la question, reprenait-il avec rage. Faut-il laisser deviner la jalousie qui me dévore ou ne pas en parler? Si je me tais, on ne se cachera point devant moi. Je connais Gina, c'est une femme toute de premier mouvement. Sa conduite est imprévue même pour elle. Si elle veut se tracer un rôle d'avance, elle s'embrouille. Toujours au moment de l'action, il lui vient une nouvelle idée qu'elle suit avec transport, comme étant ce qu'il y a de mieux au monde, et qui gâte tout. Ne dis en mots de mon martyr, on ne se cache point de moi. Et je vois tout ce qui peut se passer. Oui, mais en parlant, je fais naître d'autres circonstances, je fais faire des réflexions, je préviens beaucoup de ces choses horribles qui peuvent arriver. Peut-être on l'éloigne. Le comte respira. Alors j'ai presque parti gagner. Quand même on aurait un peu d'humeur dans le moment, je la calmerai, et cette humeur, quoi de plus naturel? Elle l'aime comme un fils depuis 15 ans. Là, j'ai tout mon espoir. Comme un fils. Mais elle a cessé de le voir depuis sa fuite pour Waterloo. Maintenant, en revenant de Naples, surtout pour elle, c'est un autre homme. Un autre homme, répéta-t-il avec rage. Et cet homme est charmant. Il a surtout cet air naïf et tendre, et cet œil souriant qui promet tant de bonheur. Et ces yeux-là, la duchesse ne doit pas être accoutumée à les trouver à notre cour. Ils y sont remplacés par le regard morne ou sardonique. Moi-même, poursuivi par les affaires, ne régnant que par mon influence sur un homme qui voudrait me tourner en ridicule, quel regard dois-je avoir souvent? Ah, quelque soin que je prenne, c'est surtout mon regard qui doit être vieux en moi. Ma gaieté n'est-elle pas toujours voisine de l'ironie? Je dirais plus. Ici, il faut être sincère. Ma gaieté ne laisse-t-elle pas entrevoir, comme chose toute proche, le pouvoir absolu et la méchanceté? Est-ce que quelquefois je ne me dis pas à moi-même, surtout quand on m'irrite, « Je puis ce que je veux. » Et même, j'ajoute une sottise, « Je dois être plus heureux qu'un autre, puisque je possède ce que les autres n'ont pas. Le pouvoir souverain dans les trois quarts des choses. » Eh bien, soyons justes. L'habitude de cette pensée doit gâter mon sourire, doit me donner un air d'égoïsme, content. Et comme son sourire à lui est charmant. Il respire le bonheur facile de la première jeunesse et il le fait naître. Par malheur pour le comte, ce soir-là, le temps était chaud, étouffé, annonçant la tempête. De ces temps, en un mot, qui dans ces pays-là portent aux résolutions extrêmes, comment rapporter tous les raisonnements, toutes les façons de voir ce qui lui arrivait, qui, durant trois mortelles heures, mirent à la torture cet homme passionné. Enfin, le parti de la prudence l'emporta, uniquement par suite de cette réflexion. Je suis fou, probablement. En croyant raisonner, je ne raisonne pas. Je me retourne seulement pour chercher une position moins cruelle. Je passe sans la voir à côté de quelques raisons décisives. Puisque je suis aveuglé par l'excessive douleur, suivons cette règle, approuvée de tous les gens sages, qu'on appelle prudence. D'ailleurs, une fois que j'ai prononcé le mot fatal « jalousie », mon rôle est tracé à tout jamais. Au contraire, ne disant rien aujourd'hui, je puis parler demain. Je reste maître de tout. La crise était trop forte. Le comte serait devenu fou si elle eût duré. Il fut soulagé pour quelques instants. Son attention vint à s'arrêter sur la lettre anonyme. De quelle part pouvait-elle venir? Il y eut là une recherche de noms et un jugement à propos de chacun d'eux qui fit diversion. À la fin, le comte se rappela un éclair de malice qui avait jailli de l'œil du souverain, quand il en était venu à dire, vers la fin de l'audience, « Oui, cher ami, convenons-en. Les plaisirs et les soins de l'ambition la plus heureuse, même du pouvoir sans borne, ne sont rien auprès du bonheur intime que donnent les relations de tendresse et d'amour. Je suis homme avant d'être prince, et quand j'ai le bonheur d'aimer, ma maîtresse s'adresse à l'homme et non au prince. » Le comte rapprocha ce moment de bonheur malin de cette phrase de la lettre. C'est grâce à votre profonde sagacité que nous voyons cet état si bien gouverné. Cette phrase est du prince, s'écria-t-il. Chez un courtisan, elle serait d'une imprudence gratuite. La lettre vient de son Altesse. Ce problème résolu, la petite joie causée par le plaisir de deviner fut bientôt effacée par la cruelle apparition des grâces charmantes de Fabrice, qui revint de nouveau. Ce fut comme un poids énorme qui retomba sur le cœur du malheureux. « Qu'importe de qui soit la lettre anonyme, s'écria-t-il avec fureur. Le fait qu'elle me dénonce en existe-t-il moins? Ce caprice peut changer ma vie, dit-il, comme pour s'excuser d'être tellement fou. Au premier moment, si elle l'aime d'une certaine façon, elle part avec lui pour Belgirate, pour la Suisse, pour quelques coins du monde. Elle est riche, et d'ailleurs, dût-elle vivre avec quelques louis chaque année, que lui importe? Ne m'avouait-elle pas, il n'y a pas 8 jours, que son palais, si bien arrangé, si magnifique, l'ennuie? Il faut du nouveau à cette âme si jeune. et avec quelle simplicité se présente cette félicité nouvelle. Elle sera entraînée avant d'avoir songé au danger, avant d'avoir songé à me plaindre. Et je suis pourtant si malheureux, s'écria le comte, fondant en larmes. Il s'était juré de ne pas aller chez la duchesse ce soir-là. Mais il n'y put tenir. Jamais ses yeux n'avaient eu une telle soif de la regarder. Sur le minuit, il se présenta chez elle. Il la trouva seule avec son neveu. À 10 heures, elle avait renvoyé tout le monde et fait fermer sa porte. À l'aspect de l'intimité tendre qui régnait entre ces deux êtres et de la joie naïve de la duchesse, une affreuse difficulté s'éleva devant les yeux du comte, et à l'improviste. Il n'y avait pas songé durant la longue délibération dans la galerie de tableaux. Comment cacher sa jalousie ? Ne sachant à quel prétexte avoir recours, il prétendit que ce soir-là, il avait trouvé le prince excessivement prévenu contre lui, contredisant toutes ses assertions, etc., etc. Il eut la douleur de voir la duchesse l'écouter à peine et ne faire aucune attention à ces circonstances qui, l'avant-veille encore, l'auraient jeté dans des raisonnements infinis. Le comte regarda Fabrice. Jamais cette belle figure lombarde ne lui avait paru si simple et si noble. Fabrice faisait plus d'attention que la duchesse aux embarras qu'il racontait. « Réellement, se dit-il, cette tête joint l'extrême bonté à l'expression d'une certaine joie naïve et tendre qui est irrésistible. Elle semble dire « Il n'y a que l'amour et le bonheur qu'il donne qui soient choses sérieuses en ce monde. » Et pourtant, arrive-t-on à quelques détails où l'esprit soit nécessaire, son regard se réveille et vous étonne, et l'on reste confondu. Tout est simple à ses yeux, parce que tout est vu de haut. Grand Dieu, comment combattre un tel ennemi ? Et après tout, qu'est-ce que la vie sans l'amour de Gina ? Avec quel ravissement elle semble écouter les charmantes saillies de cet esprit si jeune, et qui, pour une femme, doit sembler unique au monde. Une idée atroce saisit le comte comme une crampe. Le poignarder là, devant elle, et me tuer après. Il fit un tour dans la chambre, se soutenant à peine sur ses jambes, mais la main serrée convulsivement autour du manche de son poignard. Aucun des deux ne faisait attention à ce qu'il pouvait faire. Il dit qu'il allait donner un ordre au laquais, on ne l'entendit même pas. La duchesse riait tendrement d'un mot que Fabrice venait de lui adresser. Le comte s'approcha d'une lampe dans le premier salon et regarda si la pointe de son poignard était bien affilée. « Il faut être gracieux et de manière parfaite envers ce jeune homme, » se disait-il en revenant et se rapprochant d'eux. Il devenait fou. Il lui sembla qu'en se penchant, il se donnait des baisers, là, sous ses yeux. « Cela est impossible en ma présence, se dit-il. Ma raison s'égare. Il faut se calmer. Si j'ai des manières rudes, la duchesse est capable, par simple pique de vanité, de le suivre à Belgirate. Et là, ou pendant le voyage, le hasard peut amener un mot qui donnera un nom à ce qu'ils sentent l'un pour l'autre. Et après, en un instant, toutes les conséquences. La solitude rendra ce mot décisif. Et d'ailleurs, une fois la duchesse loin de moi, que devenir ? Et si après beaucoup de difficultés surmontées du côté du prince, je vais montrer ma figure vieille et soucieuse à Belgirate, quel rôle jouerai-je au milieu de ces gens fous de bonheur ? Ici même, que suis-je autre chose que le terzo incommodo ? Cette belle langue italienne est toute faite pour l'amour. Terzo incommodo, un tiers présent qui incommode. Quelle douleur pour un homme d'esprit de sentir qu'on joue ce rôle exécrable et de ne pouvoir prendre sur soi de se lever et de s'en aller. Le comte allait éclater, ou du moins trahir sa douleur par la décomposition de ses traits. Comme en faisant des tours dans le salon, il se trouvait près de la porte, il prit la fuite en criant d'un air bon et intime « Adieu, vous autres !»« Il faut éviter le sang, se dit-il. » Le lendemain de cette horrible soirée, après une nuit passée tantôt à se détailler les avantages de Fabrice, tantôt dans les affreux transports de la plus cruelle jalousie, le comte eut l'idée de faire appeler un jeune valet de chambre à lui. Cet homme faisait la cour à une jeune fille nommée Tchekina, l'une des femmes de chambre de la duchesse et sa favorite. Par bonheur, ce jeune domestique était fort rangé dans sa conduite, avare même, et il désirait une place de concierge dans l'un des établissements publics de Parme. Le comte ordonna à cet homme de faire venir à l'instant Tchekina, sa maîtresse. L'homme obéit, et une heure plus tard, le comte parut à l'improviste dans la chambre où cette fille se trouvait avec son prétendu. Le comte les effraya tous deux par la quantité d'or qu'il leur donna. Puis il adressa ce peu de mots à la tremblante Tchekina en la regardant entre les deux yeux. « La duchesse fait-elle l'amour avec Monsignore ?»« Non, » dit cette fille, prenant sa résolution après un moment de silence. « Non, pas encore. Mais il baise souvent les mains de madame en riant. Il est vrai, mais avec transport. » Ce témoignage fut complété par 100 réponses à autant de questions furibondes du comte. Sa passion inquiète fit bien gagner à ces pauvres gens l'argent qu'il leur avait jeté. Il finit par croire à ce qu'on lui disait et fut moins malheureux. « Si jamais la duchesse se doute de cet entretien, dit-il à Tchekina, j'enverrai votre prétendu passer 20 ans à la forteresse et vous ne le reverrez qu'en cheveux blancs. » Quelques jours se passèrent, pendant lesquels Fabrice, à son tour, perdit toute sa gaieté. « Je t'assure, disait-il à la duchesse, que le comte Mosca a de l'antipathie pour moi. » « Tant pis pour son excellence, répondit-elle avec une sorte d'humeur. » Ce n'était point là le véritable sujet d'inquiétude qui avait fait disparaître la gaieté de Fabrice. « La position où le hasard me place n'est pas tenable, se disait-il. Je suis bien sûr qu'elle ne parlera jamais. Elle aurait horreur d'un mot trop significatif comme d'un inceste. Mais si un soir, après une journée imprudente et folle, elle vient à faire l'examen de sa conscience, si elle croit que j'ai pu deviner le goût qu'elle semble prendre pour moi, quel rôle jouerai-je à ses yeux? Exactement le casto Giuseppe. Proverbe italien, allusion au rôle ridicule de Joseph avec la femme de l'eunuque Putiphar. Faire entendre par une belle confidence que je ne suis pas susceptible d'amour sérieux, je n'ai pas assez de tenue dans l'esprit pour énoncer ce fait de façon à ce qu'il ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau à une impertinence. Il ne me reste que la ressource d'une grande passion laissée à Naples. En ce cas, y retourner pour 24 heures. Ce parti est sage, mais c'est bien de la peine. Resterait un petit amour de bas étage à Parme, ce qui peut déplaire, mais tout est préférable au rôle affreux de l'homme qui ne veut pas deviner. Ce dernier parti pourrait, il est vrai, compromettre mon avenir. Il faudrait, à force de prudence et en achetant la discrétion, diminuer le danger. Ce qu'il y avait de cruel au milieu de toutes ces pensées, c'est que réellement Fabrice aimait la duchesse de bien loin plus qu'aucun être au monde. « Il faut être bien maladroit, se disait-il avec colère, pour tant redouter de ne pouvoir persuader ce qui est si vrai. » Manquant d'habileté pour se tirer de cette position, il devint sombre et chagrin. « Que serait-il de moi, grand Dieu, si je me brouillais avec le seul être au monde pour qui j'ai un attachement passionné ?» D'un autre côté, Fabrice ne pouvait se résoudre à gâter un bonheur si délicieux par un mot indiscret. Sa position était si remplie de charme. L'amitié intime d'une femme, si aimable et si jolie, était si douce. Sous les rapports plus vulgaires de la vie, sa protection lui faisait une position si agréable à cette cour, dont les grandes intrigues, grâce à elle qui les lui expliquait, l'amusaient comme une comédie. « Mais au premier moment, je puis être réveillée par un coup de foudre, se disait-il. ces soirées si gaies, si tendres, passées presque en tête-à-tête avec une femme si piquante, si elles conduisent à quelque chose de mieux, elle croira trouver en moi un amant. Elle me demandera des transports, de la folie, et je n'aurai toujours à lui offrir que l'amitié la plus vive, mais sans amour. La nature m'a privé de cette sorte de folie sublime. Que de reproches n'ai-je pas eu à essuyer à cet égard. Je crois encore entendre la duchesse d'A, et je me moquais de la duchesse. Elle croira que je manque d'amour pour elle, tandis que c'est l'amour qui manque en moi. Jamais elle ne voudra me comprendre. Souvent, à la suite d'une anecdote sur la cour contée par elle avec cette grâce, cette folie qu'elle seule au monde possède, et d'ailleurs nécessaire à mon instruction, je lui baise les mains et quelquefois la joue. Que devenir si cette main presse la mienne d'une certaine façon ? Fabrice paraissait chaque jour dans les maisons les plus considérées et les moins gaies de Parme. Dirigé par les conseils habiles de la duchesse, il faisait une cour savante aux deux princes, père et fils, à la princesse Clara Paolina et à Monseigneur l'archevêque. Il avait des succès, mais qui ne le consolaient point de la peur mortelle de se brouiller avec la duchesse.